6. Ils revinrent sur leurs pas jusqu'à l'intersection qui les avait éloignés du sentier du rayon pour les mener au château du roi cramoisi. Et là, Roland décida de s'arrêter quelques minutes. Un petit filet de brise s'était levé et la bannière patriotique claquait au vent. Susanna constata qu'elle avait à présent l'air vieux et passé. Les photos de Nixon, Lodge, Kennedy et Johnson avaient été défigurés par des graffitis, anciens eux aussi. Tout le glam. Ce glam délabré que le roi cramoisi avait réussi à créer, il fallait le reconnaître, avait disparu.
« Bas les masques, tombez les masques !» se dit-elle avec lassitude. « C'était une fête magnifique, mais elle est à présent terminée.
Et la mort rouge plane au-dessus de tous. » Elle toucha le bouton qu'elle sentait à côté de sa bouche, puis inspecta le bout de son doigt. Elle s'attendait à y voir du sang ou du pu, voire les deux. Mais son doigt était propre. Elle en éprouva un grand soulagement.
« Tu crois un mot de tout ça ?»
demanda Susanna au pistolero.
« Je crois même presque tout, » répondit-il.
« Alors il est là-haut, dans la tour ?»«
Pas dedans, enfermé dehors. »
Il sourit.
« Ça change tout. »
« Vraiment ? Et qu'est-ce que tu vas lui faire ?»«
Je ne sais pas. »
« Est-ce que tu crois qu'en prenant le contrôle de nos armes, il pourrait pénétrer à l'intérieur et monter jusqu'au sommet ?»
« Oui. Pas une seconde d'hésitation. »«
Et qu'est-ce que tu vas y faire ?»«
L'empêcher de mettre la main dessus. »
On aurait dit qu'il énonçait des évidences, et Susanna se dit que c'en était probablement. Ce qu'elle avait une fâcheuse tendance à oublier, c'est que Roland était un foutu prosaïque, pour tout.
« Tu avais l'intention de piéger Mordred au château ?»«
Oui. » acquiesça Roland. Mais étant donné ce qu'on y a trouvé et ce qu'on y a entendu, il m'a paru plus sage de changer de décor. Plus simple. Regarde.
Il sortit la montre et fit sauter le clapet d'une pichenette. Ils constatèrent que la trotteuse courait toujours en solitaire. Mais allait-elle à la même vitesse qu'auparavant? Susanna n'en était pas certaine, mais il lui semblait que non. Elle leva les yeux vers Roland, les sourcils arqués d'un air interrogateur.
« La plupart du temps, elle marche normalement, » dit le pistolero. « Mais plus tout le temps. Je pense qu'elle perd au moins une seconde tous les 6 ou 7 tours, peut-être de 3 à 6 minutes par jour, tout compris. »«
Ça n'est pas beaucoup ?»«
Non, » reconnut Roland en rangeant la montre. « Mais c'est un début. » Que Mordred fasse comme bon lui semble. La tour sombre se dresse non loin de la limite des terres blanches et j'ai la ferme intention de l'atteindre.
Susanna comprenait son impatience. Elle espérait seulement qu'elle ne le rendrait pas négligent. Car dans ce cas, la jeunesse de Mordred des Chênes n'aurait subitement plus aucune importance. Si Roland commettait la bonne erreur au mauvais moment, lui, elle et Othée pourraient bien ne jamais voir la tour sombre du tout. Le bruit d'un large battement d'ailes derrière eux vint interrompre ses pensées, et en arrière-plan un cri humain qui commençait comme un rugissement et se terminait en hurlement perçant. La distance avait beau étouffer ce cri, l'horreur et la douleur qu'il exprimait n'étaient que trop flagrantes. Dieu merci, il finit par s'évanouir.
Le ministre d'État du roi cramoisi est entré dans la clairière,
commenta le pistolero. Susanna jeta un regard en arrière en direction du château. Elle en vit les remparts d'un rouge noir, mais rien de plus, et elle se réjouissait de ne pas en voir plus.
Mordred l'offin, se dit-elle.
Son cœur battait à tout rompre et elle se dit qu'elle n'avait jamais eu aussi peur de toute sa vie, ni allongée aux côtés de Mia pour accoucher, pas même dans les ténèbres sous le château Discordia.
Mordred l'offin, mais maintenant, il va manger.
7.
Le vieil homme qui avait débuté sa vie en tant qu'Austin Cornwell et qui devait la terminer sous le nom de Rando Pensif était assis au bout du pont, côté château. Les corbeaux patientaient au-dessus de sa tête, pressentant peut-être que le spectacle n'était pas fini pour aujourd'hui. Pensif avait assez chaud, grâce au caban qu'il portait, et il s'était offert une rasade de cognac avant de se rendre à la rencontre de Roland et de son amie la dame Merlette. Enfin, ce n'était peut-être pas tout à fait vrai. C'était peut-être Brass et Compson, aussi connus sous le nom de Fiemalo et de Fumalo, qui avaient avalé une gorgée du meilleur cognac du roi, et l'ancien ministre d'État de Loss qui avait descendu le dernier tiers de la bouteille. Quelle qu'en fût la cause. Toujours est-il que le vieil homme s'assoupit et que la venue de Mordred, talon rouge, ne le réveilla point. Il était assis, le menton posé sur la poitrine, de la bave dégoulinant entre ses lèvres pincées, avec l'air d'un bébé qui s'est endormi dans sa chaise haute. Sur les parapets et les passerelles, les oiseaux s'agglutinaient plus nombreux que jamais. Ils auraient dû s'envoler à l'approche du jeune prince, mais ce dernier leva les yeux vers eux et décrivit un geste dans l'air. Sa main droite ouverte passa furtivement devant son visage, puis il la referma et baissa le poing. « Attendez !» signifiait ce geste. Mordred s'immobilisa au bout du pont, côté ville, reniflant délicatement l'odeur de viande pourrissante. Cette odeur délicieuse aurait suffi à elle seule à l'amener jusqu'ici, même en sachant que Roland et Susanna avaient repris la route le long du sentier du rayon. Qu'ils se remettent gentiment dans la bonne direction, les deux pistoleros flanqués de leurs bafouilleux domestiques. Voilà ce que pensait le garçon. L'heure n'était pas venue de refermer le gouffre. Plus tard, peut-être. Plus tard, son papa blanc baisserait la garde, ne serait-ce qu'un instant. Et alors Mordred ne le raterait pas. Pour le dîner, ce sera parfait. Mais au petit déjeuner ou au déjeuner, ce serait presque aussi bien. La dernière fois que nous avions croisé ce gaillard, il n'était qu'un petit oiseau. Bébé adoré, amène donc ici ton panier. Nourrisson. La créature qui se tenait à présent derrière les grilles du château du roi cramoisi avait la taille d'un garçon d'environ 9 ans. Pas un beau garçon. Pas le genre de garçon qu'on aurait dit ravissant, sauf sa propre mère totalement démente. La cause n'en était pas tant son héritage génétique complexe qu'une sous-alimentation pure et simple. Sous la chevelure noire et sèche, le visage était blême et bien trop maigre. Sous les yeux bleus de Bombardier de Mordred, la chair boursouflée était d'un mauve diaphane. Son teint rouge enflammé était criblé de plaies et de bleus. Tout comme le bouton près de la bouche de Susanna, ses stigmates pouvaient résulter de son voyage dans les terres empoisonnées. Mais son régime alimentaire devait aussi y être pour quelque chose. Il aurait pu emmagasiner des boîtes de conserve avant de quitter le poste de contrôle au bout du tunnel. Roland et Susanna en avaient laissé à profusion. Mais il n'y avait tout bonnement pas pensé. Comme Roland le savait, Mordred n'en était encore qu'à l'apprentissage des règles de survie. La seule chose qu'il avait emportée de la baraque en préfabriqué du poste de contrôle, c'était un blouson de cheminot jaune et pourrissant, ainsi qu'une paire de bottes. La trouvaille des bottes avait été une véritable aubaine, bien qu'elle soit pratiquement tombée en morceaux au cours de sa longue marche. S'il avait été un hume, ou même une créature mutante un peu moins résistante d'ailleurs. Mordred serait mort dans les Maltaires, manteau ou pas manteau, botte ou pas botte. Parce qu'il était ce qu'il était, il avait appelé les corbeaux à lui lorsqu'il avait faim, et les corbeaux n'avaient eu d'autre choix que de venir. Il ne faisait pas un repas très savoureux, et les insectes qu'il faisait affleurer des rochers desséchés et toujours légèrement radioactif, était encore pire, mais il les avait courageusement avalés. Un jour, il était entré en contact par le Shining avec l'esprit d'une belette, et il lui avait ordonné de venir. Une bête misérable et rachitique, tout près de mourir de faim elle aussi, mais après les oiseaux et les insectes, il lui avait trouvé la saveur du meilleur steak du monde. Mordred avait repris son autre apparence et avait enlacé la belette de ses 7 pattes, suçant et aspirant jusqu'à ne laisser qu'un lambeau de fourrure déchiqueté. Il en aurait volontiers mangé une bonne douzaine, mais il n'avait que celle-là. Et voilà qu'il trouvait devant lui un plein panier de victuailles. Un peu faisandé, certes, mais quelle importance. Même les asticots seraient nourrissants. Tout ça suffisait largement à tenir jusqu'au bois enneigé au sud-est du château, bois qui regorgeait de gibier. Mais avant ça, il y avait ce vieil homme. « Rando ?» dit-il. « Rando pensif ?» Le vieil homme sursauta, marmonna, puis ouvrit les yeux. Pendant quelques secondes, il contempla sans comprendre le garçon efflanqué qui se tenait devant lui. Puis ses yeux chassieux se remplirent d'effroi. « Mordred, fils de l'os, » dit-il en s'efforçant de sourire. « Aïe-la vous, roi qui sera !» Il se mit vaguement à agiter les jambes, puis parut se rappeler qu'il était assis et que son salut ne donnerait rien dans cette position. Il essaya tant bien que mal de se remettre debout, retomba en arrière avec un boum qui fit rire le garçon. Les occasions de rire n'avaient pas été légion dans les Maltaires, aussi accueillit-il celle-là de bon cœur. Puis tenta un nouvel essai. Fructueux celui-là. « Je ne vois d'autres cadavres que ces deux-là, qui ont l'air d'être morts plus vieux encore que tu ne l'es. » lança Mordred en regardant autour de lui avec une surprise surjouée. « Je ne vois en tout cas aucun pistolero mort, que ce soit à jambes longues ou court-jambes. « Vous dites vrai, et je dis grand merci, cela va de soi. » « Mais je peux expliquer cela, Saïe, et très facilement. Oh, mais attends, retiens donc ton explication, bien que je ne doute pas qu'elle soit excellente. Laisse-moi plutôt deviner. Serait-ce que les serpents ont ligoté le pistolero et sa dame, des serpents longs et gras, et que tu les as fait mettre à l'abri dans ce château-là ? « Monseigneur, si tel est le cas, il devait y avoir une énorme quantité de serpents dans ton panier, car j'en vois encore un certain nombre ici. Certains ont même l'air de se repaître de ce qui aurait dû faire mon souper. Même si à l'évidence une partie des membres pourrissants ferait bel et bien son repas, au moins les amuse-gueules, Mordred adressa au vieillard un regard plein de reproches. « Les pistoleros ont-ils été enfermés, alors ?» Au regard d'effroi du vieil homme succéda une expression de profonde résignation. Mordred en conçut une rage incroyable. Ce qu'il souhaitait lire sur le visage du vieux Saï pensif, ce n'était pas de l'effroi, encore moins de la résignation, mais de l'espoir. Espoir que Mordred se délecterait à déchiqueter. Sa forme se mit à trembler. Pendant une seconde, l'homme vit l'ombre noire et changeante tapis dessous avec ses nombreuses pattes. Puis tout s'estompa et l'enfant réapparut. Pour l'instant, du moins. « Faites que je ne meure pas en hurlant, » supplia l'ancien Austin Cornwell. « Accordez-moi au moins cela, vous autres dieux, qui que vous soyez. » Que je ne meure pas en hurlant dans les bras de cette monstruosité. Vous savez ce qui s'est produit ici, jeune Saïe. C'est dans mon esprit, donc dans le vôtre. Pourquoi ne pas emporter cette saleté dans son panier, ainsi que les serpents s'ils sont à votre goût? Et laissez un vieil homme à la courte vie qui lui reste, au nom de votre père, sinon au vôtre. Je l'ai bien servi, même à la fin, J'aurais pu tout simplement me tapir dans le château et les laisser passer leur chemin. Mais je n'ai rien fait. J'ai essayé.
Tu n'avais pas le choix, répliqua Mordred depuis son bout du pont. Sans savoir si c'était vrai, sans même s'en soucier, la chair morte n'était que de la nourriture. La chair vivante et le sang encore chargé du dernier souffle d'un homme. Ah, ça, c'était autre chose. C'était un méfunt.
A-t-il laissé un message?
Si fait, vous savez bien que oui.
Dis-le-moi.
Pourquoi ne le prenez-vous pas dans mon esprit?
De nouveau cette palpitation, l'amorce de métamorphose. Pendant une seconde, il n'y eut plus ni jeune garçon ni araignée géante à l'autre bout du pont, mais un étrange hybride qui tenait des deux. Saï pensif se sentit soudain la bouche très sèche, malgré la bave qui lui avait coulé sur le menton pendant son petit somme et qui miroitait toujours. Puis la version garçon de Mordred se stabilisa de nouveau, dans son manteau déchiré et pourrissant.
Parce qu'il me plaît de l'entendre de ton trou de soulard ratatiné.
Le vieillard s'humecta les lèvres.
Très bien, si cela vous sied. Il a dit qu'il était malin alors que vous étiez jeune, sans une once de ruse. Il a dit que si vous ne restiez pas à votre place, il vous ferait sauter la tête. Il a aussi dit qu'il aimerait la brandir comme trophée à la face de votre père rouge, enfermé sur son balcon.
Il avait un peu étoffé le message de Roland, comme nous le savons puisque nous étions là, et c'était plus qu'il n'en fallait pour Mordred, mais toujours pas assez pour Rando pensif. Seulement 10 jours auparavant. Cela aurait peut-être suffi à exaucer le souhait du vieil homme qui était de provoquer le garçon afin qu'il le tue rapidement. Mais Mordred avait mûri en accéléré et était désormais en mesure de résister à ses pulsions, comme celle de bondir sur le pont en se métamorphosant et de débouler dans la cour du château pour arracher la tête de Rando pensif du reste de son corps d'un coup de patte poilue. Au lieu de quoi, il leva les yeux vers les corbeaux. Ils étaient des centaines maintenant. Et ils lui rendirent son regard, aussi concentré que des élèves dans une classe. Le garçon agita les bras pour mimer un battement d'ailes, puis désigna le vieil homme. L'air se remplit instantanément d'ailes tourbillonnantes. Le ministre du roi fit mine de s'enfuir, mais avant qu'il ait pu faire un pas, le nuage d'encre des corbeaux s'abattit sur lui. Il leva les bras en l'air pour se protéger le visage, tandis qu'il piquait sur sa tête et ses épaules, le transformant en véritable épouvantail. Mais ce geste instinctif ne lui fut pas d'un grand secours. D'autres oiseaux se posèrent sur ses bras levés jusqu'à ce qu'il plie sous le poids des volatiles. Les becs se mirent à picorer et à piqueter la figure du vieillard, faisant perler le sang en minuscules pointes tatouées.
« Non !» s'écria Mordred. « Laissez-moi la peau, mais vous pouvez prendre les yeux. »
C'est à ce moment précis, alors que les corbeaux arrachaient les yeux de Rando pensif de leurs orbites vivantes, que l'ancien ministre d'État émit ce hurlement que Roland et Susanna entendirent monter en puissance, en approchant de la ville fortifiée. Les oiseaux qui ne trouvèrent pas où se poser continuèrent de tourner autour de lui comme un cumulonimbus en plein orage. Ils le firent pivoter sur ses talons en lévitation et le soulevèrent, le transportant vers l'enfant, qui s'était à présent approché au centre du pont pour s'y accroupir. Il avait abandonné les bottes et le manteau pourrissant de l'autre côté du pont. À qui serait intéressé? Ce qui attendait Saï pensif, debout sur ses pattes arrière, battant l'air de ses pattes avant avec sa marque rouge clairement visible sur le ventre poilu, c'était d'en-tête le petit roi rouge. L'homme s'avança vers son destin en flottant dans l'air, les yeux arrachés et poussant des hurlements. Il brandit les mains devant lui, tentant d'écarter son assaillant. D'une patte habile, l'araignée en attrapa une et la dirigea délicatement jusqu'à sa gueule hérissée de poils et la croqua comme un sucre d'orge. Miam. 8. Cette nuit-là, au-delà des dernières masures bizarrement étroites qui le mettaient mal à l'aise, Roland s'arrêta devant ce qui avait dû être une petite ferme de tenanciers. Planté face au bâtiment principal, il renifla.
« Quoi, Roland ? Quoi ?
Sens-tu le bois de cet endroit, Susanna ?»
Elle renifla à son tour.
« Oui, en fait. Et alors ?»
Il se tourna vers elle, un sourire aux lèvres.
« Si on peut le sentir, c'est qu'on peut le brûler. »
Dicton qui se révéla vrai. Ils eurent du mal à allumer le feu, même avec l'aide des ruses les plus rouées de Roland, et une demi-boîte de méta, mais ils finirent par y arriver. Susanna s'assit aussi près qu'elle put des flammes, se retournant à intervalles réguliers pour griller uniformément des deux côtés, savourant la sensation de la sueur perlant d'abord sur son visage et sa poitrine, puis sur son dos. Elle avait oublié ce qu'on ressentait quand on avait chaud, et elle ajouta du bois jusqu'à obtenir un véritable feu de joie rugissant. Pour les animaux des terres plus éloignées le long du sentier du rayon en voie de guérison, ce feu devait ressembler à une comète tombée du ciel, encore enflammée. Othée était assis à côté d'elle, les oreilles dressées, scrutant le feu comme hypnotisée. Susanna s'attendait à tout moment à entendre Roland objecter quelque chose, lui ordonner d'arrêter de rajouter du bois dans ce foutu feu et de le laisser un peu brûler au nom de son père. Mais il n'en fit rien. Il était assis là, ses pistolets démontés devant lui à enhuiler les pièces. Lorsque le feu devint trop chaud, il se recula d'un mètre ou deux. Son ombre maigre et tremblotante dansait le komala à la lueur des flammes.
« Pourras-tu supporter encore une ou deux nuits de froid ? »
finit-il par lui demander. Elle hocha la tête.
« S'il le faut, oui. »
« Quand on commencera à monter vers les terres de neige, » il se mettra à faire vraiment froid. Et si je ne peux te promettre que nous ne passerons qu'une seule nuit sans feu, je pense pouvoir dire que ce ne sera pas plus de deux.
Tu crois qu'il sera plus facile d'attraper du gibier sans faire du feu, n'est-ce pas ?
Roland acquiesça et se mit à réassembler ses pistolets.
Et il y aura du gibier dès après-demain ?
Oui.
Comment le sais-tu ?
Il y réfléchit, puis secoua la tête.
« Je ne peux le dire, mais je le sais. »«
Tu en sens l'odeur ?»«
Non. »«
Tu touches leur esprit par le Shining ?»«
Non plus. »
Elle abandonna le sujet.
« Roland, et si Mordred envoie les oiseaux contre nous cette nuit ?»
Il sourit et désigna les flammes du doigt. En dessous, le lit de braise rougeoyante palpitait comme sous le souffle d'un dragon.
Ils ne s'approcheront pas de ton feu de joie.
Et demain ?
Demain, nous serons plus loin du casse-roi russe. Même Mordred ne pourrait les convaincre de s'aventurer si loin.
Et ça, comment le sais-tu ?
Il se contenta de secouer de nouveau la tête, même s'il croyait connaître la réponse à cette question. Ce qu'il savait lui venait de la tour. Il en sentait le pouls gronder en lui, se réveiller à l'intérieur de son crâne. C'était comme une pousse en train de s'extraire d'une graine desséchée. Mais il était encore trop tôt pour le dire.
« Couche-toi, Susanna. Prends du repos. Je monterai la garde jusqu'à minuit, puis je te réveillerai. »«
Alors maintenant, on monte la garde. »
Il opina.
« Et lui, il nous surveille ?»
Roland n'en était pas certain, mais il pensait que Mordred les épiait effectivement. En imagination, il voyait un garçon maigrelet, mais avec un bidon saillant devant lui en cet instant, car il avait bien mangé, nu sous les haillons d'un manteau sale et déchiré. Un garçon maigrelet installé dans une de ces étranges maisons maigrelettes, sans doute au troisième étage pour avoir une vue dégagée.
Il est assis à la fenêtre, les genoux remontés contre la poitrine pour se tenir chaud, sa cicatrice au flanc devenue douloureuse avec le froid qui lui pénètre les os. Son regard est captivé par leur feu, la jalousie le dévore. Il est jaloux de leur amitié aussi. Sa demi-mère et son père blanc qui lui tournent le dos.
« C'est probable, » répondit Roland.
Elle s'apprêta à s'allonger, puis quelque chose l'arrêta. Elle toucha la plaie près de sa bouche.
« Ce n'est pas un bouton, Roland. »«
Ah non ?»
Il la regardait avec attention, assis calmement.
« J'avais une amie au lycée qui avait exactement la même chose. Ça saignait, puis ça s'arrêtait, ça cicatrisait presque, puis ça fonçait et ça se remettait à saigner. » Elle a fini par aller voir un médecin, un spécialiste de la peau, un dermatologue, comme on les appelle, et il a dit que c'était un angiome, une tumeur du sang. Il lui a fait une injection de novocaïne et il l'a retirée au scalpel. Il a dit qu'elle avait bien fait de venir le voir si vite, car chaque jour, cette chose plantait ses racines un peu plus profond. Il lui a dit qu'elle aurait fini par percer le palais, voire ses sinus.
Roland attendait en silence. L'expression qu'elle avait utilisée tournait dans sa tête. « Tumeur du sang ». Il se dit qu'elle aurait pu être inventée pour désigner le roi cramoisi lui-même, et Mordred aussi.
« On n'a pas de novocaïne, mon biquet, » lança Detta Walker. « Ça, je peux te le dire. Mais si le moment vient, faudra que tu dégaines ton couteau et que tu me fasses ce foutu enculé. » T'as intérêt à le faire plus vite que le bafouilleux gobe une mouche, pigé ?
Oui. Maintenant, repose-toi.
Elle s'allongea. 5 minutes après qu'elle se fut endormie, Detta Walker ouvrit un œil et lui lança un « Je te surveille, petit blanc !» regard en coin. Roland lui adressa un signe de tête et elle referma les yeux. 1 minute plus tard, elle les rouvrit et c'est Susanna qui le regarda. Quand elle se rendormit, elle ne bougea plus. Il avait promis de la réveiller à minuit, mais il préféra la laisser dormir 2 heures de plus, sachant qu'à la chaleur du feu, son corps se reposait vraiment, pour cette nuit-ci au moins. Lorsque sa montre flambant neuve annonça 1 heure, il sentit enfin le regard de leur poursuivant filer. Mordred avait perdu son combat contre la fatigue des heures les plus noires de la nuit, comme d'innombrables enfants avant lui. Où que se trouvât sa chambre, l'enfant non désiré et solitaire dormait à présent, enroulé tant bien que mal dans son manteau crasseux et déchiré, la tête dans les bras. Et sa bouche encore souillée du sang séché de saille pensif, tremblote-t-elle comme s'il rêvait du sein qu'il a connu, du lait qu'il a goûté? Roland n'aurait su le dire, et il n'avait pas particulièrement envie de le savoir. Il se réjouissait simplement d'être éveillé pour son tour de garde nocturne, jetant de temps à autre un morceau de bois dans le feu déclinant. Il se dit qu'il mourrait bientôt. Le bois était plus vert que celui dont étaient faites les maisons, mais il n'en restait pas moins ancien, durci au point de ressembler à de la pierre. Le lendemain, il verrait des arbres, les premiers depuis Calabrine Sturgis, sans compter ceux poussant sous le soleil artificiel de l'Algul Ciento et ceux qu'il avait vus dans le monde de Stephen King. Ce serait une bonne chose. En attendant, les ténèbres tenaient bon. Au-delà du halo lumineux du feu mourant, le vent gémissait, soulevant les chevaux sur les tempes de Roland et l'entourant d'une douce odeur ouatée de neige. Il renversa la tête en arrière et regarda tourner l'horloge des étoiles sur le grand cadran noir, au-dessus de lui.